Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel pour l'émission Mode d'emploi animée aujourd'hui par une équipe de militants altermondialistes d'Attaque et du journal Le Piaf. Alors revenu aujourd'hui, des rediffs parce que c'est les vacances, mais une chronique économique d'Alex. Et nous attaquons immédiatement par une rediffusion d'une interview du livre noir des banques où nous recevions une journaliste de Basta, le journal Basta, qui nous parlait de ce livre et de ce thème fort, qu'est-ce que sont nos banques ? Alors, petit problème technique dans la bande-son, ça devait être la musique qui passe juste après. On revient à la rediff avec donc le livre noir des banques.
Livre noir des banques auquel elle a collaboré, c'est un ouvrage très intéressant qui, contrairement à beaucoup d'autres d'économie, est tout à fait lisible. Il y a une vraie volonté pédagogique dans cet ouvrage avec pas mal de chiffres qui font parfois bien peur. Par exemple, quelque chose qui peut peut-être nous faire un peu rentrer, nous, clients quelconques d'une banque, dans ce débat, c'est finalement une question qu'on se pose peut-être pas, mais ça coûte combien pour un client, une banque, à peu près ?
Alors c'est vrai que la banque de détail, c'est-à-dire la gestion de votre compte au quotidien, certains évaluent ça à peu près à 100 euros par an, c'est peut-être un peu plus, même 150, 200 euros par an. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a un manque de transparence totale sur ces questions-là. Par exemple, les tarifs, il y a des brochures, les banques éditent des brochures qui sont assez incompréhensibles. Alors elles essayent de faire des efforts pédagogiques, comme elles le disent, mais des fois, il y a jusqu'à 300 tarifs différents dans une brochure avec des trucs, des formulations absolument incompréhensibles pour le client qui a un peu l'impression de se faire avoir. Et puis ce qui est un peu problématique aussi, c'est que il y a des conseillers qui sont censés qui ont un rôle de conseil, mais qui sont aussi des commerciaux et qui ont par exemple qui vont toucher des commissions sur le fait qu'ils vont vous vendre des services bancaires. Et on se retrouve dans une situation où ils nous cherchent par exemple à nous vendre des packages souvent inutiles. Par exemple, à la Société Générale, il y a un package de 10 services qui est vendu, et dans ce package de 10 services, l'UFC Que Choisir a noté qu'il y en avait deux services inutiles, trois peu utiles et cinq qui étaient plus avantageux si on les achetait individuellement. Donc voilà, donc un petit exemple de ce que peut être l'arnaque au quotidien dans les banques de détail, et qui ont en plus un public complètement captif, puisque quand on est salarié, on est obligé, quand on gagne plus de 1500 euros par mois, on est obligé d'avoir un compte bancaire. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des salariés en France qui sont obligés d'avoir un compte bancaire. Et puis changer de banque, c'est une vraie galère, et il y a à peu près 15-20% de gens qui disent qu'ils veulent changer de banque chaque année. Il y en a que 3 qui réussissent à le faire. Donc les banques, elles ont absolument pas intérêt à jouer sur la concurrence et à baisser leurs tarifs, puisque au final elles ont un public captif devant elles.
Mais bon, avec le package de la Société Générale, il y a une photo d'Eddy Cassier de Kerviel quand même.
Alors d'autant plus que toutes ces banques qui nous font payer différents services ont le droit d'utiliser tout l'argent qu'on peut leur amener pour faire un placement sur les marchés. Justement, une des questions un peu centrales dans le livre noir des banques, c'est finalement comment ça fonctionne, cette notion de crédit par rapport au marché, et est-ce que les banques aujourd'hui sont encore vraiment celles qui financent l'économie réelle, qui financent les ménages, qui financent les entreprises ou les PME ?
Alors c'est un des points qu'on a voulu justement montrer dans ce livre, c'est le décalage total qu'il y a entre les banques aujourd'hui et l'économie réelle. Alors on sait déjà que la crise financière, elle a entraîné la crise économique derrière, donc il y a déjà des liens, des conséquences de la finance sur l'économie, mais c'est pas forcément des conséquences positives. Donc c'est une déconnexion qu'on a noté. Par exemple, en 10 ans, le PIB de l'Union européenne, le PIB a augmenté de 12%. Et les actifs des banques, eux, ils ont augmenté de 90%. Ça dit bien à quel point c'est complètement décalé. Et puis, on a des banques qui sont devenues des mastodontes. Par exemple, BNP Paribas, qui a un bilan bancaire de 2000 milliards d'euros. Donc, c'est l'équivalent du PIB de la France. Donc, ce qui est produit en France par 3 millions d'entreprises et 66 millions de contribuables, de personnes, la BNP a l'équivalent dans son bilan bancaire. Et ces mastodontes en plus ont une certaine fragilité, et c'est aussi un des points qu'on a voulu souligner. Et on a voulu évaluer aussi le coût de ces banques pour la société, et montrer à quel point elles étaient en décalage total par rapport à notre économie.
Et donc dans ce décalage, quand on voit le mastodonte que sont ces banques. J'ai pu voir dans l'ouvrage que certaines d'entre elles avaient été, pour les banques françaises, parmi des banques qui sont de moins en moins sûres. Hein, j'ai vu que, par exemple, les quatre grandes banques françaises de marché bien connues ont été sorties des banques stables et fiables par je crois.
Alors c'est un peu le discours des banques aujourd'hui, des banques françaises, de dire qu'elles n'ont pas pris de risques excessifs pendant la crise, qu'elles n'ont rien coûté aux contribuables, que leur modèle est super sûr et qu'il n'y a aucun risque par rapport à ça. La preuve, c'est qu'elles ont résisté à la crise. Sauf que ce qu'elles oublient de dire déjà, c'est que c'est pas vrai. Enfin, il y a eu une énorme somme d'argent qui a été mobilisée, 4 500 milliards d'euros qui a été mobilisée au moment de la crise pour justement éviter que toutes ces banques s'écroulent comme un vulgaire château de cartes. Et puis aujourd'hui, elles ont encore une très grande fragilité. Dans le livre, on parle de colosses au pied d'argile ou même de bombes à retardement. Dans le sens où aujourd'hui, il y a une très très grande concentration du secteur bancaire français. Donc il y a 5 banques qui représentent 80% du secteur bancaire. Et on a 4 grandes banques en France, 4 banques qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire des banques qui, si elles s'écroulent, ça fait boule de neige et ça provoque des faillites en chaîne. Ces 4 grandes banques systémiques, c'est BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et donc ces banques, elles sont dangereuses pour la stabilité du système bancaire. Et il y en a 30 au niveau mondial. Qui sont des banques too big to fail, c'est-à-dire qu'on les laissera, les États pourront pas les laisser tomber parce qu'elles sont vraiment trop énormes. Et sur ces 30, donc il y en a 4 françaises. Donc c'est la plus grande concentration de banques au monde dans un pays. Donc ça veut dire que le système bancaire français, finalement, il est le plus vulnérable potentiellement, donc un des plus dangereux au monde. Et puis il y a des chercheurs, notamment des chercheurs de Lausanne et puis de New York, dont un prix Nobel, Robert Engel, qui ont élaboré un indicateur qui s'appelle le S-risk, qui évalue le risque justement de ces banques, savoir si il y a un risque ou pas. Et en septembre 2014, c'était la France qui avait le S-risk le plus élevé, qui était 2 fois supérieur à l'Allemagne. Et sur les 10 banques européennes qui ont le risque le plus élevé, on retrouve encore les 4 françaises. Donc malgré les discours des banques qui disent « non, on est ultra solide », etc., il y a quand même des indicateurs qui font dire le contraire. Et donc on a envie de pas forcément croire sur parole ces banques qui ont aussi des intérêts à défendre par rapport à ça.
Mais tu dis que l'expression anglo-saxonne trop gros pour tomber. Mais finalement, si on imagine que toutes les banques font faillite, qu'est-ce que ça change pour nous ?
Bah, ça change beaucoup parce qu'on s'est rendu compte justement pendant la crise financière de 2008 que ça avait des conséquences énormes sur l'économie et que ça provoquait des séismes. La crise financière au départ, effectivement, elle concernait que des banques et puis petit à petit, ça a provoqué une crise au niveau de la consommation, au niveau des dépenses publiques, au niveau de la dette publique. On s'est retrouvé notamment avec 8 millions de chômeurs en plus en Europe, c'est-à-dire le taux de chômage, il est passé de 7 à 11% à cette période-là. La dette publique, elle a augmenté française, elle a augmenté de 60 à 93% en quelques années au moment de la crise. Donc il y a eu des conséquences absolument faramineuses sur l'économie.
Oui, mais peut-être parce qu'on les a empêchés de tomber.
Je ne suis pas sûre. Je pense que ça aurait été pire si elles étaient tombées au final. Mais bon.
Alors justement, si elles sont tombées, c'est parce que leur fonctionnement... On voit dans le livre une certaine déconnexion avec l'économie réelle. Finalement, la part de ce que va mettre une entreprise ou les ménages dans les banques est faible par rapport à leur richesse. Et le fonctionnement, finalement, du crédit, il est plus le marché que le monde réel.
Alors, c'est vrai que la déconnexion entre économie réelle et marché, elle est assez flagrante dans le sens où, sur les actifs bancaires, en fait, il y a dans l'actif des banques, il y a 10% seulement qui sert aux prêts aux entreprises. Il y a 15% qui sert à des prêts aux ménages et 75% restants, c'est-à-dire les 3/4 des actifs bancaires, ils se retrouvent en placement sur les marchés financiers, le plus souvent sans rapport direct, justement, avec des investissements réellement productifs dans l'économie réelle. Et un autre chiffre qui est assez frappant, c'est que il y a des produits dérivés qui sont créés, donc qui sont des produits spéculatifs. Au départ, c'était des assurances, et puis c'est devenu des produits hautement spéculatifs. Et ces transactions sur les produits dérivés, il y en a que 7% qui sont entre des banques et des entreprises. Le reste, les 93% des transactions, c'est un jeu entre financiers. Donc on se retrouve dans une espèce de partie de poker mondiale dans lequel finalement l'économie réelle est une toute petite part de concernée. Et pour autant, on pourrait se dire, les bourses, elles sont devenues des grands casinos. Il y a des parties de poker qui se jouent là, et on pourrait se dire à la limite importe quoi. On les laisse jouer leur partie de poker et puis nous on fait des choses un peu productives dans notre coin. Sauf que du coup sur ces marchés financiers, ben chaque jour, chaque heure, même chaque millionième de seconde se joue le prix du pain, le prix des métaux, le celui de l'énergie, l'avenir de nos retraites. Voilà, c'est la production alimentaire aussi qui est très contrainte par ces échanges-là, puisque c'est en 2008 ces échanges financiers ont provoqué par exemple une hausse énorme des tarifs des matières premières alimentaires avec des émeutes de la faim, etc. Donc il y a des conséquences absolument faramineuses sur l'économie réelle, et en même temps c'est une finance qui est complètement dérégulée sur laquelle on a plus beaucoup prise quoi.
Alors je peux peut-être partir sur cet exemple de l'émeute de la faim, parce que les gens n'ont peut-être pas forcément entendu parler de ça. C'est quand même un bon exemple pour imaginer qu'une décision bancaire peut avoir un impact sur la faim dans le monde.
Alors en fait c'est la Banque mondiale qui le dit, donc c'est pas l'attaque, c'est que en fait ce qui a provoqué des émeutes de la faim en 2008, c'est la crise, enfin la hausse des prix alimentaires, et ça a été créé, enfin ça a été en lien direct avec le fait qu'il y a des fonds d'investissement qui ont été faits sur les aliments, et on s'est retrouvé avec une hausse de la tonne du blé par exemple qui est passée de 100 € à 300 €, donc des gens dans des pays notamment du sud qui avaient plus les moyens d'acheter, et c'est lié complètement au fait qu'aujourd'hui les matières premières elles sont la propriété finalement de fonds financiers. Avant c'était les trois quarts des matières premières étaient détenues par des négociants de matières premières. Aujourd'hui les trois quarts des matières premières agricoles elles sont détenues par des spéculateurs qui n'ont pas du tout de gestion des stocks en réel, mais qui ont une gestion des finances. Et résultat, aujourd'hui, sur le marché mondial, chaque année s'échange 8 fois la production mondiale de blé, 16 fois la production de maïs ou 43 fois la production de soja. Donc, on se retrouve avec des échanges qui, à chaque fois, effectivement, accumulent forcément une plus-value, puisque les gens ne le feraient pas s'il n'y avait pas des profits. Donc, on va échanger 40 fois la même production avec des gens qui vont spéculer à la hausse à chaque fois, et puis avec les conséquences des hausses faramineuses de prix derrière. Donc ça, c'est vraiment une conséquence concrète de la spéculation financière et du fait que il y a un manque de régulation assez flagrant. Et voilà, quand il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde, enfin voilà, c'est un crime contre l'humanité de laisser faire ce genre de choses.
Bonjour et bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par une équipe de militants altermondialistes d'Attaque et du journal Le Piaf. Alors c'était une rediffusion de l'interview concernant le livre noir des banques, et nous avons évidemment écouté juste après une chanson appelée Le banquier de Marius Color. À présent, stop au rediff et une chronique de notre chroniqueur économique habituel, Alex.
Eh oui, parce que en ces temps de campagne présidentielle, donc à l'heure du Penelope Gate, du Marina Bruxelles Gate, commence à prendre forme, et en attendant le Hamon Gate, le Macron Gate, le Mélenchon Gate, qui devrait bientôt arriver au train où vont les choses, j'ai décidé en accord avec le camarade Pierre ici présent de prendre un petit peu de hauteur et de parler de politique à long terme. Donc du coup, je vais vous parler d'écologie et de capitalisme. Alors tout le monde a bien compris que sans transition écologique, sans une diminution drastique des rejets de gaz à effet de serre, des pollutions de toutes sortes que génère notre système de production, on va droit à la catastrophe. Cette catastrophe, elle sera pas seulement écologique, mais elle sera aussi économique. Si évidemment la perspective de vivre dans un monde pollué où on devient asthmatique rien qu'en respirant l'air de nos métropoles mondialisées n'a rien de particulièrement réjouissant, l'idée que la croissance pourrait s'arrêter un jour inquiète beaucoup plus nos dirigeants, et en particulier les économistes stipendiés qui leur servent de conseillers. Depuis une vingtaine d'années, nos élites ont pris conscience qu'avec le réchauffement climatique, la diminution des ressources naturelles, on était en train de scier consciencieusement la branche sur laquelle repose notre merveilleux capitalisme mondialisé, ce qui est effectivement un petit peu angoissant. Alors pour bien comprendre le mécanisme, il faut revenir aux fondamentaux. En gros, et pour faire très simple, pour produire, on utilise 3 types d'ingrédients. Du travail, des machines et des matières premières. La révolution industrielle a permis une croissance extraordinaire parce qu'elle a rendu possible une démultiplication assez fantastique de l'efficacité du travail humain grâce à des machines de plus en plus sophistiquées. Mais ces machines, elles ne peuvent fonctionner qu'en utilisant une quantité croissante d'énergie provenant de ressources non renouvelables pour l'essentiel. La croissance a aussi très logiquement conduit à transformer une part de plus en plus grande de ressources naturelles en produits de consommation. Or, les économistes, par convention, ont longtemps considéré qu'il n'y avait que deux ingrédients utilisés dans la production, deux facteurs de production, le capital et le travail. Autrement dit, le travail et les machines. Ça revient à considérer que les ressources naturelles sont un stock inépuisable dans lequel on peut se servir sans regarder aux conséquences, puisque ces ressources, on ne les achète à personne, on se contente de les chercher là où elles se trouvent et de les utiliser. Pour les économistes, la croissance est principalement due aux progrès techniques qui ont permis des gains de productivité. Autrement dit, grâce à des systèmes de production de plus en plus complexes, on a pu produire davantage en utilisant moins de main-d'œuvre. Ce raisonnement, qui est parfaitement juste en soi, ne tient pas compte de la diminution des ressources naturelles qui est liée à cette croissance. On peut prendre un exemple pour illustrer le paradoxe. Dans le domaine agricole, l'utilisation d'engrais, de pesticides, de tracteurs ont permis d'accroître les rendements dans des proportions incroyables. En France, au XVIIIe siècle, 15 à 20 millions de paysans nourrissaient, pas très bien, 25 millions de Français. Aujourd'hui, moins d'un million de paysans, environ 900 000, nourrissent plutôt bien 65 millions de Français. La productivité du travail agricole a été multipliée par au moins 50 en deux siècles. Mais évidemment, cette mesure, elle tient pas compte des dégâts causés par l'agriculture industrielle. Pollution des nappes phréatiques, diminution de la diversité biologique, rejet de gaz à effet de serre, pollution des sols, etc., etc., etc. Donc il faudrait donc corriger la mesure de la croissance en tenant compte de la dépréciation du capital naturel qu'elle entraîne. Alors pour dire ça un peu plus simplement, en reprenant l'exemple de l'agriculteur, on devrait dire que la production agricole a été multipliée par 4 ou 5, moins la diminution de la valeur des ressources naturelles détruites ou abîmées pour obtenir cette production supplémentaire. Sauf que ça, on ne sait pas bien le faire parce qu'on ne sait pas comment mesurer la valeur des ressources naturelles. Littéralement, elles n'ont pas de prix. Alors tout ça peut paraître assez compliqué et inutilement compliqué, mais c'est assez fondamental pour la suite. Imaginons que dans un avenir plus ou moins lointain, mais qui risque d'arriver quand même, la pollution des sols amène une baisse des rendements agricoles et que l'augmentation du prix du pétrole conduise à une diminution de l'utilisation des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, toutes les machines, etc. On va avoir une diminution de la production agricole. Dans ce cas de figure, le progrès technique accumulé au cours des derniers siècles n'empêchera pas une décroissance. Le moyen d'empêcher ça, on le connaît. Il faut investir tout de suite dans les énergies renouvelables, trouver de nouvelles techniques pour produire autant en utilisant moins d'engrais et de pesticides. C'est ce qu'on appelle la transition écologique. Mais dans le système actuel, ce type d'investissement n'est pas ou très peu productif. On va dépenser beaucoup pour produire autant et à un coût a priori plus élevé. Donc dans une logique capitaliste, c'est un investissement dont la rentabilité est nulle, voire négative. Autrement dit, on va demander aux capitalistes de penser à long terme et d'investir sans profit, à la clé, de se transformer en philanthrope désintéressé, c'est-à-dire de ne plus être un capitaliste. Mais si le capitaliste ne fait pas cela, à long terme, ses perspectives de profit vont aller diminuant au fur et à mesure que les ressources naturelles vont se dégrader. Donc le capitalisme se retrouve face à une contradiction apparemment insoluble. Soit il continue dans sa logique qui va le conduire à la catastrophe et à sa disparition à terme, soit il se transforme de lui-même pour devenir autre chose que le capitalisme. Il y a une solution pourtant vers laquelle on s'achemine un peu dans la douleur d'ailleurs, c'est imposer une réglementation environnementale mondiale à l'intérieur de laquelle le capitalisme pourra continuer à s'ébattre joyeusement comme le canard dans sa mare. On change volontairement les règles du jeu du marché pour sauver le marché. Et précisément pour que ça marche, pour que ce soit efficace, il faut que ces nouvelles règles donne la possibilité de mettre un prix sur les ressources naturelles utilisées dans le processus de production. Autrement dit, c'est le principe bien connu du pollueur-payeur. Plus on pollue, plus on abîme les ressources naturelles, plus on devra payer. Si on arrive à imposer à tous les pays, à tous les producteurs ces règles, le producteur capable de produire autant en polluant moins va être avantagé par rapport à ses concurrents, rafler le marché et faire du profit. La saine concurrence et les libres du jeu du marché vont donc pouvoir continuer à faire leur œuvre et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes capitalistes. Avec beaucoup d'optimisme, on peut même imaginer que le progrès technique amènera des solutions permettant de préserver une croissance globale dans ce nouveau monde. Une croissance verte. Mais me direz-vous? Normalement, là, tu dois intervenir pour me dire...
Mais me direz-vous, c'est quoi cette croissance verte?
Eh bien, la croissance verte, on en parle déjà. C'est dans les programmes politiques, on trouve ça chez Mélenchon, chez les Verts, chez les socialistes. À droite, ça viendra bientôt. On a déjà chiffré les centaines de milliers d'emplois qu'elle va permettre de créer, alors qu'on n'a même pas encore mis en place une réglementation écologique digne de ce nom. Alors, de quoi on parle? Et c'est là C'est là que ça devient à la fois subtil et génial et très drôle. C'est là qu'on peut mesurer la vitalité du capitalisme, dans sa capacité à repérer toutes les sources de profit possibles, même quand ça ne repose que sur des hypothèses un chouïa fragiles.
Tu veux dire que Mélenchon est en train de construire le capitalisme de demain ?
Ouais, capitalisme d'État de demain, ouais, exactement. Donc je continue mon raisonnement. Le raisonnement qui peut conduire notre capitaliste à investir aujourd'hui dans la transition écologique est le suivant. À terme, une transition écologique est indispensable. Donc, elle finira bien par avoir lieu. Pour avoir lieu, il faut qu'il y ait une réglementation mondiale qui soit mise en place. Donc, inévitablement, cette réglementation mondiale sera mise en place. Dans ces conditions, sachant qu'un jour ou l'autre, seuls les producteurs qui seront capables de produire vert pourront survivre sur le marché, il faut être le premier sur le coup et se donner les moyens d'être innovant dans ce nouveau domaine. Mais, et c'est là qu'on retrouve le vrai visage du capitalisme, celui qu'on connaît bien, comme un investissement fait aujourd'hui dans la transition écologique ne peut pas être rentable à court terme, les entreprises, plutôt que de perdre des sous stupidement maintenant, doivent convaincre les États de subventionner à mort aujourd'hui la transition écologique pour imposer demain une réglementation environnementale un peu stricte, suffisamment stricte pour être capable d'éliminer la concurrence. Certaines entreprises font donc déjà du lobbying pour récupérer des aides auprès de leurs États respectifs et militent pour que la transition écologique se fasse en douceur, mais surtout à leur avantage. L'argument, parce qu'il faut quand même leur servir un argument aux États, parce que pas donner de l'argent comme ça. Il en va de la compétitivité de notre économie nationale. C'est fondamental. Quand tout le monde sera obligé de vert, il faudra avoir une avance technologique sur le reste du monde. Dans ce pays et en Europe en général, on a déjà loupé le tournant informatique. On va pas louper le tournant écologique. Et cet argument marche. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre autrement la volonté européenne et singulièrement française et allemande de mettre en œuvre l'accord de Paris alors même que Trump, en bon républicain, qui a décidé que le mode de vie américain, ça ne se discutait pas, a annoncé déjà qu'il n'appliquerait pas l'accord. Eh ben, le raisonnement est simple. Le désavantage compétitif d'aujourd'hui sera compensé par un super avantage compétitif dans une ou deux décennies. Évidemment, d'un point de vue capitaliste, il ne faut pas que ce soit les capitalistes qui payent pour ça. Il est essentiel que le coût de l'ajustement soit pris en charge par l'État. Il ne faut quand même pas déconner. Les entreprises sont là pour faire du profit, pas de la philanthropie.
Eh bien, donc c'est comment un lobbyiste vert, c'est un gars qui pousse les politiques en leur donnant, je sais pas moi, des bonbons bio à mieux travailler pour eux.
Un lobbyiste vert, c'est quelqu'un qui sait trouver les bonnes informations, les bons chiffres pour aller voir les gens à Bruxelles, les gens à Paris, les gens à Berlin, en disant, voyez, en fait, nous on est pas mal sur ce secteur-là. Et donc, si la réglementation environnementale dont on discute depuis 10 ans et qu'on n'arrive pas à mettre en place, on arrivait quand même à la mettre en place en faisant en sorte que nous, la solution qu'on propose, soit un petit peu avantagée par la réglementation, on serait pas contre. Et même on serait vachement pour. Et à ce moment-là, on serait prêt à faire des efforts et on serait même prêt à embaucher les gens et à faire des investissements.
Donc. Aux élections, faites la différence entre un élu vert et un élu lobby vert, quoi.
Exactement.
Alors, en parlant d'élections, ben, on peut quand même ne pourrait pas éviter de parler de Pénélope.
C'est une philanthrope.
Personne qui aime tous les hommes.
Ouais.
Et vous avez entendu bien sûr les frères Jacques nous parler de Pénélope. Alors on reprend une petite rediffusion récente où nous recevions Framasoft qui il y a quelques semaines nous parlait de ses activités internet autogérées et nous recevions l'un de ses animateurs, Pouillou. Bonsoir Pouillou, donc c'est ton nom au sein de Framasoft, l'association, et nous t'appelons là ce soir pour que tu nous évoques un peu les différentes missions de Framasoft et en précisant, et plus précisément, votre action qui vise, alors c'est votre thème, dégoogliser Internet. Alors on imagine que c'est à l'encontre de l'association, de l'entreprise, qu'est-ce que je raconte, Google. Et alors, bah, finalement, Google, mais les gens aiment bien Google, on a des super applis sur Internet, Gmail ça marche super bien, c'est quand même méchant ça de dégoogliser, non?
Non, nous on n'est pas vraiment méchant, mais justement, on a envie de faire comprendre que Google et tous ses copains, hein, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, chez nous, on les appelle les GAFAM, voilà, ce sont des entreprises... c'est vrai, enfin, je suis assez d'accord avec toi, c'est quand même assez pratique, tu vois, genre, c'est gratuit, on peut faire plein de choses, moi, j'ai jamais rien payé, et étrangement, ce sont les 5 entreprises les plus riches au monde, et moi, je n'ai rien payé. Donc, est-ce que je suis vraiment leur client?
Alors, les 5 entreprises, c'est Google,
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est les 5 plus grandes capitalisations boursières au monde. Elles ont dépassé Big Pharma, Big Oil, donc le pétrole, etc. Ce sont, aujourd'hui, en fait, ce sont les données qui sont plus importantes que le pétrole. C'est leur 3.0, ça s'appelle. Et les données, en fait, ce sont les nôtres, les vôtres, tout ce qu'on leur donne comme information quand on utilise Gmail, quand on utilise iCloud de Apple, quand on utilise Office 365 pour faire des documents Word et des présentations en ligne. En fait, ben, on leur donne notre vie personnelle. Quand on utilise son agenda, son iPhone ou son téléphone Android, on leur donne nos vies personnelles.
Et ils en font quoi alors de nos vies personnelles? Ils en font de l'argent apparemment?
Ah oui, énormément d'argent, c'est vraiment de l'or. Et en fait, la plupart du temps, ils le revendent, Google est une énorme régie publicitaire, donc ils le revendent à des publicitaires. Facebook le fait aussi très bien. Je veux dire, aujourd'hui, si sur Facebook, vous voulez faire de la publicité auprès de jeunes hommes blancs, urbains de 15 à 17 ans qui aiment les baskets, vous pouvez trouver ça très facilement auprès de la régie publicitaire de Facebook. C'est très facile, parce que tout le monde donne ses informations à Facebook, et Facebook est là pour les récupérer.
Et donc, il y a des gens pour les acheter, c'est encore d'autres acteurs du web, ça peut être aussi quoi, des supermarchés?
Ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, toute entreprise qui a envie de faire de la promotion des publicités, donc ça va de la... du revendeur de Viagra en ligne à celui qui veut promouvoir son film.
Alors, celui qui veut promouvoir son film, on va dire que c'est pas si grave que ça, finalement. Est-ce qu'il y a atteinte à la vie privée?
Oui, évidemment qu'il y a atteinte à la vie privée, parce que le problème, c'est que ces données-là, nous n'avons pas forcément conscience que nous les donnons et de la portée de ce que nous donnons. Il y a un exemple tout simple, c'est Facebook, je reprends Facebook là pour le coup, Facebook qui, lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, a proposé de mettre, vous savez, un drapeau bleu-blanc-rouge en filigrane sur sa photo de profil. Avant, on l'avait fait, ça. Moi, je sais que pour d'autres événements, j'avais mis quelque chose sur ma photo de profil, mais je le faisais moi-même avec mon petit logiciel. Je rajoutais un drapeau, une connerie. Et là, c'est Facebook qui nous a créé l'application. Ils sont très gentils. Mais comme ça, ils savaient exactement quand est-ce que je le faisais, sous l'influence de qui, puisqu'en général, je voyais, ah tiens, Micheline, Gérard et Nadia ont changé leur image de profil avec un drapeau, veux-tu le faire? Et Facebook voyait si je le faisais parce que Micheline l'avait fait, parce que Gérard l'avait fait ou parce que Nadia l'avait fait. Donc comme ça, on sait qui peut influencer qui. Et donc derrière, Facebook peut me dire, regarde, Nadia aime bien la page des baskets machin chose, pourquoi ne dirais-tu pas liker la page des baskets machin chose?
Alors ça, c'est un peu effrayant vu qu'on parle là quasiment presque d'opinion politique, en tout cas d'opinion personnelle. Mais la mise en danger individuelle, c'est pratiquement savoir si sur le web Google vend, je sais pas moi, des dictatures par exemple.
Mais de toute façon, Google influence les résultats électoraux de par son algorithme dont on ne sait ce qu'il fait remonter dans les recherches. Très simplement, lorsque tu fais une recherche sur Google et lorsque je fais une recherche sur Google, nous n'avons pas les mêmes résultats. Nous faisons tous les deux la même recherche et nous n'avons pas les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que Google veut t'offrir un service personnalisé et donc a appris à te connaître. Que tu aies un compte Google ou pas, ne change rien à l'affaire. Soit il t'identifie par ton compte Google, soit il t'identifie par ton adresse IP, l'adresse de ton ordinateur. Voilà. Et donc, du coup, ça a été étudié là aussi, les bulles de filtres qui ont fait, par exemple, que beaucoup de gens n'ont pas vu venir la montée de Donald Trump, vu que, en fait, les personnes qui étaient pour Donald Trump étaient enfermées dans un réseau d'informations pro-Trump, et les personnes qui étaient contre Donald Trump ou pour Hillary Clinton, par exemple, étaient enfermées dans un réseau d'informations pro-Hillary.
Donc, ce qui veut dire que l'influence directe de ces 5 puissances de l'informatique et de Google en particulier, oui. C'est dangereux. Il n'y a pas d'hésitation.
Après, attention, le but n'est pas d'être alarmiste et de fouetter les gens jusqu'à ce qu'ils s'en aillent de Google ou de Facebook. Le but est juste de rendre les gens libres. Chez Framasoft, on défend le logiciel libre et sa culture. Et pour nous, vous pouvez être libre à partir du moment où vous êtes informé. Donc ça, c'est une première chose très importante, d'où le fait que nous informons des enjeux que nous voyons au niveau informatique et dans nos vies numériques. Et ensuite, on essaie justement de proposer des alternatives aux plus grands services des GAFAM.
Et donc, Framasoft, c'est une association qui comme on t'entend, parle et défend bien ses objectifs militants. C'est une association de bénévoles, de...
Alors c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2004, mais le premier projet de Framasoft, qui au départ était un collectif sans association, date de 2001. Et c'est une association avec une trentaine de membres bénévoles, avec 6 salariés et avec 200 contributeurs et contributrices. L'association vit à 90% du don. Le reste étant de la vente de 3 t-shirts et 2 bouquins, quoi. Mais on vit principalement donc des dons des donateurs et donatrices. Il y a 2000 personnes qui donnent, et ce qui nous permet de proposer des projets concrets pour mettre plus de vie libre dans la vie de monsieur et madame tout le monde. On touche à peu près 1 million de personnes par mois.
Alors donc là, on arrive à plus que dégoogliser Internet, c'est même proposer des services alternatifs. Donc les grands principes, c'est, tu l'as dit, logiciel libre.
Oui.
Et ça, les gens commencent à comprendre, j'imagine, ce que c'est. Logiciel libre, c'est que ça appartient pas justement à entre autres ces 5 groupes-là. Il y a d'autres principes comme ça, généraux, importants.
Pardon. C'est surtout un logiciel qui te conserve tes libertés fondamentales à toi. C'est pas le logiciel qui est libre, hein, c'est juste l'expression. Mais en fait, c'est toi qui restes libre parce que c'est un logiciel qui, par un contrat légal, une licence libre, respecte tes libertés fondamentales. Et après, oui, sur des googlisons, il y a d'autres valeurs, comme une valeur éthique. Hein, vous pouvez aller lire les conditions générales d'utilisation des services de Framasoft, hein, le fameux truc que vous devez accepter là. Bah, nous, c'est facile à lire, ça se lit en 5 minutes. Il y a une version abrégée qui est légalement... qui est un contrat légal aussi, légalement valide, pardon, et ça se lit très facilement, et ça dit que on n'a rien à faire de vos données, que nous n'allons pas les revendre et que nous les protégerons au maximum, par exemple.
Alors c'est quoi les exemples? Peut-être certains ont déjà utilisé Framadate, qui est peut-être le plus connu.
Ah oui, c'est le plus connu, le plus utilisé. Framadate, c'est une alternative à Doodle. Hein, tu sais, c'est quand on veut faire des sondages de dates, comme ça, quand c'est la prochaine réunion, samedi, dimanche, lundi. Voilà. Le gros avantage, par exemple, de Framadate par rapport à Doodle, et là aussi c'est un des avantages du logiciel libre qui est créé collaborativement, c'est que les personnes en situation de déficience visuelle ou de handicap visuel peuvent l'utiliser avec des logiciels de lecteur d'écran et de la navigation clavier, ce qui n'est pas le cas de Doodle, par exemple. Le logiciel libre permet aussi parfois de s'occuper des publics qui sont peut-être moins rentables pour des entreprises, mais très important de ne pas les laisser de côté, quoi.
Et donc Framadate, il y a d'autres produits, Framasoft, Framapad, je crois aussi.
Oui. Alors Framapad, c'est une alternative à Google Doc, donc pour écrire collaborativement du texte. Très intéressant, par exemple, si vous êtes, un syndicat ou un groupe militant ou dans une zone à défendre, c'est peut-être pas le moment de donner toutes vos informations à Google ni à Microsoft en ligne, sachant que les révélations Snowden, depuis les révélations Snowden, on sait que tout ça part auprès de la NSA et qu'il y a des accords avec la DGSE, avec les services de renseignement français. Donc voilà, il y a des choses quand même assez intéressantes pour protéger sa vie numérique. Dans d'autres services comme ça, au débeauté, je peux vous citer Framadrop, qui est une sorte de WeTransfer. Hein, ça permet donc de partager des gros fichiers avec juste une adresse. Mais à la différence de WeTransfer, c'est que nous, les fichiers sont chiffrés de bout en bout. C'est-à-dire que c'est vous qui avez la clé et qui l'a donnée à l'autre personne en donnant l'adresse web. Mais nous, sur nos serveurs, on ne sait pas ce que vous avez mis. On ne sait pas si vous avez mis une photo du dernier Picasso, le dernier épisode de Game of Thrones ou votre roman que vous êtes en train d'écrire. On ne peut pas savoir, c'est brouillé, c'est du code.
Et aussi une certaine qualité, parce que la pub, y en a pas chez Framasoft.
Ah oui, on n'en a pas besoin, nous on vit avec les dons, donc il n'y a pas besoin de publicité. Et du coup, parce que ce n'est pas tant la publicité, c'est le profilage publicitaire, c'est-à-dire que la publicité aujourd'hui, elle vous espionne, elle regarde ce que vous faites dans le site. Et c'est ça qui est très très grave. Si juste il y avait la pollution visuelle et numérique qu'est la publicité, c'est-à-dire regardez, on a sorti tel produit. Encore, ça pourrait s'entendre, mais là, c'est carrément une publicité intrusive. Et il faut s'en protéger. D'ailleurs, alors ça, c'est pas du tout Framasoft, mais c'est très important aussi. Mettez un bloqueur de pub sur votre navigateur, uBlock Origins, par exemple.
Voilà. Est-ce que d'ailleurs dans les produits Framasoft ou autres ou des actions, est-ce que tu as envie de mettre en avant quelque chose d'autre que ce projet de dégooglisation?
En fait, j'ai envie de mettre en avant la suite. De dégooglisation, c'est-à-dire que dégooglisons Internet, nous, sur 3 ans, on a dit qu'on allait sortir 30 services alternatifs à ceux des géants du web, mais le but, c'est de montrer que c'est possible, c'est que vous veniez tester chez nous. Et nous, on est ravis quand vous partez de chez nous parce que vous êtes devenus indépendants. Alors, les plus informaticiens d'entre vous peuvent utiliser des tutoriels pour installer ces services chez elles et chez eux, mais sinon, il y a un collectif qui s'est monté, qui s'appelle le collectif Chaton, pour collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et en fait, c'est un collectif dont nous faisons partie, de tout un tas d'hébergeurs partout en France, qui ont décidé de s'imposer les mêmes règles éthiques et de respect de la vie numérique des utilisateurs et des utilisatrices et de solidarité.
Donc là, hébergeur, ça veut dire mettre son site web, avoir un mail hébergé autrement que par une entreprise, etc.
Mais ça peut être aussi du date, des choses que l'on fait, nous, chez Framasoft, que vous allez retrouver chez d'autres hébergeurs, sauf que ces hébergeurs, ils seront près de chez vous. Vous pourrez vous intéresser à leur association ou à leur entreprise ou à leur scope ou leur... voilà. Vous pourrez aller échanger avec eux. Vous aurez leur numéro de téléphone si jamais votre mail tombe en rade. Donc c'est assez intéressant.
D'accord, donc c'est tout un, non pas simplement Framasoft que tu veux mettre en avant, mais tout un projet,
un réseau
plutôt collaboratif, bénévole, et surtout qui s'intéresse aux grands mots comme logiciel libre, liberté individuelle, protection de la personne, et puis même un esprit collaboratif pour travailler, j'imagine.
Tout à fait. On est vraiment dans l'aspect humain. Du logiciel, un logiciel libre, le but c'est que l'humain reste maître et au centre de la machine, et donc on est dans une communauté qui est très très solidaire, très soudée, et vraiment dans l'échange humain quoi et interpersonnel. D'où le fait aussi qu'on puisse avoir des actions comme ça, un peu d'éducation populaire, d'aller voir son voisin, sa voisine et de s'entraider, ce qui est souvent bien plus efficace qu'un service client en fait.
Alors l'efficacité, c'est un mot, mais c'est aussi plus humain quand même. Mais c'est vrai, quand on est en devant son ordinateur, l'efficacité, c'est un mot important. Et pour être utilisateur de certains outils Frama, comme Frama Dite ou Framapad au quotidien, c'est très agréable.
Oui, c'est vrai que c'est pratique.
Voilà, on te remercie.
Avec plaisir.
Et n'hésite pas à revenir dans l'émission pour parler de tous ces projets.
Merci de l'invitation, au plaisir.
Marijuana illegal. Scal casco bagnola. Ça va toujours.
Et nous venons d'entendre, bien entendu, Manu Chao, Clandestino. Et c'est le temps de faire l'agenda du mois de février et début mars. Magali?
Alors, le samedi 11 février, à la Maison de la Vie Associative de Malakoff, 28 rue Victor Hugo, est organisée une journée anticoloniale par plusieurs associations, avec notamment l'ouverture de la journée par la chorale populaire de Malakoff et des courtes projections d'extraits de films tournés à l'époque.
Et alors, on peut enchaîner le même jour, donc samedi 11 février à 14h, place Edmond Michelet à côté de Beaubourg, avec un rassemblement contre la colonisation, mais en Palestine, et la démolition des maisons palestiniennes. Voilà, plus un seul jour sans démolition de maisons palestiniennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Donc, il faut le dire haut et fort qu'on s'oppose à cela.
Une projection, ce qui sera suivi d'un débat sur le film Land on Freedom de Ken Loach, sorti en 95 déjà. Ça sera le dimanche 12 février à 17h à la bibliothèque Larue, 10 rue Robert Planquet dans le 18e. C'est un film engagé aux côtés des républicains anarchistes et communistes de la guerre d'Espagne en 36.
Alors le 14 février à 11h, vous pouvez partir en bus de Paris pour les manifestations européennes Stop CETA. Le vote est prévu pour le 15 février. Le départ en bus serait organisé potentiellement le 14 février à 11h pour un retour le 15 dans la journée. Le programme sur place à Strasbourg, c'est le 14 février à partir de 19h30, une soirée festive Stop CETA. Le 15 février à partir de 10h30, une manifestation européenne. Et le 15 février à 14h, une assemblée publique. Voilà. Et un hébergement sur place sera également organisé et pris en charge par le collectif d'organisation.
Et alors, donc le même jour, comme c'est la Saint-Valentin, on peut déclarer sa flamme à l'ANDRA. Alors c'est quoi l'ANDRA ? L'ANDRA, c'est l'Agence d'enfouissement des déchets nucléaires qui a décidé justement d'aller enfouir nos déchets nucléaires à Bure. Et donc on peut aller là-bas du 14 au 18 février pour justement manifester contre cet enfouissement. Et vous pouvez d'ailleurs aller à la préfecture, il y a même un numéro de téléphone, ou à l'ANDRA pour déclamer un poème d'amour à Cigéo, ou leur écrire à Centre Haute-Marne, à Bure. Déployez des banderoles sur vos lieux de lutte et de manif. Le mardi 14 février, nous ouvrons le bal à 20h, après tablé et vin chaud, à une marche au flambeau vers l'ANDRA depuis Bure.
Une belle Saint-Valentin en perspective. Mercredi, c'est un rassemblement de soutien à Laurent. Laurent, c'est secrétaire général adjoint de la sous-section recherche de l'INSERM, mais c'est surtout parce qu'il a été mis en examen, et donc ça sera son procès, suite à la manifestation contre la loi travail du 15 septembre dernier. Donc si vous voulez le rejoindre, c'est devant le Palais de Justice de Paris, mercredi à 9h.
Vous pourrez également assister, je ne sais pas quel jour, le 15 février sans doute, à une présentation du livre d'Alain Deneau, « De quoi Total est-elle la somme ?» à l'ENSCI, au 48 rue Sabin dans le 11e. Alors l'idée c'est Total, c'est ainsi qu'ils ont choisi de la nommer, comme dans un mauvais film tout en hyperbole. Donc dans cet essai, Alain Deneau démontre que le cas Total ne témoigne pas seulement du pouvoir de cette entreprise en particulier, mais de celui d'une poignée de multinationales qui font aujourd'hui la loi.
Et alors, le jeudi 16 février 2017, à 18h, à la librairie La Brèche, 27 rue Taine, dans le 12e arrondissement, présentation par Michel Husson d'Attaque, du livre d'Attaque, par ici la sortie. Cette crise qui n'en finit pas, donc c'est l'occasion de rencontrer un des auteurs du livre et un très bon économiste d'ailleurs, pour discuter de cette crise, des moyens d'en sortir et surtout des raisons pour lesquelles on n'en sort toujours pas. Voilà, jeudi 16 février, à 18h, à la librairie La Brèche.
Si vous en avez marre des élections à plusieurs tours, eh ben faites votre premier tour. Préparez le premier tour social. Ça sera jeudi 16 février à 19h à la Belle Étoile, donc la salle de Jolimôme à Saint-Denis, 14 allée Saint-Just à Plaine-Saint-Denis. Ça sera un meeting participatif au théâtre de la Compagnie Jolimôme pour préparer un événement d'ampleur inédite. C'est notre tour et il n'est pas présidentiel. Il y aura les Amiens de Goudière, il y aura Sud-Post Hauts-de-Seine, la Compagnie Jolimôme bien sûr, CGT, Collectif Bella Ciao, etc.
Vous pourrez rejoindre le 17 février à 18h30 à Paris, place du Palais Royal, le Cercle de Silence organisé contre le traitement inhumain des sans-papiers. Sachez que vous pouvez rejoindre le cercle à tout moment, même pour seulement quelques minutes, quelques instants.
Et le lundi 20 février à 19h à l'UGC Gobelin, place d'Italie, une projection du grand classique documentaire La Sociale de Gilles Perret qui est suivi d'un débat. Donc débat projection, La Sociale, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
Mercredi de la semaine prochaine, le 22 février, les classes populaires et le Front National au bar-restaurant Le Lieu-dit rue Sorbier dans le 20e, les Amis du Monde Diplomatique de Paris, propose une rencontre et débat avec les auteurs de ce livre sur les classes populaires et le FN qui est paru aux éditions du Croquant, Gérard Moget et Willy Pelletier.
Et si je puis me permettre, je recommande ces deux auteurs, donc Gérard Moget et Willy Pelletier, c'est du solide.
C'est deux sociologues et le livre doit être béton, c'est dans ce débat sur le FN, ça doit être vraiment un débat intéressant.
C'est les meilleurs sur cette question-là.
Le 23 février à 19h30, La Fabrique organise un atelier humoristique « Devenir un investisseur véreux ». Ça se passera 23 rue du Docteur Potin dans le 19e à Paris. Et l'objectif, c'est de vous former à devenir investisseur véreux. Donc vous serez encadré par le chef manager Tom Lescroc qui vous fournira toutes les clés pour comprendre le fonctionnement des marchés boursiers et faire de l'argent en se moquant des effets que peuvent avoir nos choix sur l'économie réelle et les humains. Un diplôme sera donné aux trois meilleurs de la promotion qui sauront faire preuve du moins d'humanité possible et du pire esprit spéculatif.
Je connais des gens qui peuvent gagner, moi.
C'est très tentant.
Ouais.
Dans le cadre de la semaine anticoloniale 2017, retour sur l'histoire méconnue de Fernand Yvetot, qui est un communiste algérien victime du colonialisme. Donc le vendredi 24 février 2017 à 19h à l'espace Némeyer, deux places du colonel Fabien. Je pense que certains militants reconnaîtront l'adresse. Donc il y a 60 ans, le 11 février 1957, Fernand Yvetot, militant communiste, membre du FLN, était guillotiné sur l'ordre de l'État français. Il avait commis comme crime un acte de solidarité avec son peuple, le peuple algérien.
Cette année, c'est le retour de Bobine Sociale, le festival de cinéma qui se passe dans différents lieux dans Paris et principalement à la Bellevilloise. Mais il y aura du 19 au 24 février des séances gratuites hors les murs dans différents lieux. Vous pouvez voir pas mal de films très intéressants et documentaires. Il y aura Vincennes, l'université perdue, qui sera diffusé, lui, au lieu dit rue Sorbier le 19 février. Il y aura aussi au Centre culturel Archipelia, dans le 20e à Paris, le film « Les tribus de la récup » de Laurence Doumic et Emmanuel Zélez sur comment les objets ont pu être récupérés à travers l'histoire et en partant aussi sur la période des années 70. Le 21 février, la médiathèque Marguerite Duras, deux films « Date ta gueule » vous présentera « Fukushima, mon amour », si je ne dis pas de bêtises, et aussi « Terre abandonnée ». Le titre pour Fukushima, mon amour, vous imaginez ce que c'est. Terre abandonnée, c'est aussi sur le même sujet, en fait. Le 22 février, à Kiasma, 15 rue Chassagnol, dans Olila, Corps interdit, qui dénonce la violence de l'État et des brumes et le froid dans les campements de Calais. Et Make Me, le souffle de l'océan, de Sophie Bachelier, dans des entretiens films en noir et blanc, des femmes sénégalaises parlent avec sobriété de leur mari, leur frère, leur fils, partis pour l'Europe. Elles les attendent. Le 23 février, à la bibliothèque Couronne, 66 rue de Couronne, dans le 20e, au nom du Père et de tous du ciel, sur le génocide de Rwandais, etc. Ensuite, ça sera des séances payantes, mais dans un lieu très intéressant, la Bellevilloise, où tout un week-end du 25 au 26 février, vous pourrez voir d'autres films, comme un reportage sur le capitaine Thomas Sankara, ou un autre documentaire dont le titre est explicite, « Les migrants ne savent pas nager ».
Et enfin, dernier événement, un peu lointain, le 7 mars à 19h45, Attaque Paris 15 vous invite à une conférence débat intitulée « Revenu universel d'existence, une fausse bonne idée ?» point d'interrogation. Et Attaque Paris 15 a convié Esther Jeffers, membre du conseil scientifique d'Attaque, pour traiter ce sujet.
Alors, sur une dernière date, eh ben, réservez votre 2 juillet pour aller à Clermont-Ferrand pour le festival Agoravox, où Manu Chao sera pour la première fois au Parc des Sports Marcel Michelin. Ça sera un événement politique aussi dans une ville bien à gauche. Et pour terminer cette émission, en remerciant évidemment...
Et peut-être l'occasion de rencontrer un des présentateurs de l'émission,
c'est possible.
J'ai bien suivi.
Et nous pour remercier notre seul invité aujourd'hui, notre seul chroniqueur, Alex et sa chronique économique, Magali aussi à l'agenda, et bien sûr Ludo à la technique. Et nous nous quittons avec Eric Truffaz et Oximo Puccino, le complément du verre.
S'offrir des éloges, un cocktail de poésie. Le boom prend au trip, le tchaka, la carotide. Boom, tchak, boom, satisfaction garantie. Donne-moi un rythme.